Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Daily Movies, le journal de bord de ma cinéphilie. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la saga Hunger Games avec plus précisément le préquel, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur.
You seem like a good man, Corlina Snow.
I have seen what war does to people.
Fueled with the terror of becoming prey. See how quickly we become predator? I want my enemies to see a rainbow of destruction engulfing the world.
The monsters! All of you!
Adapté du livre de Susan Collins du même nom, le film raconte l'histoire du jeune Coriolanus Snow, qui est le dernier espoir de sa lignée, qui était une famille riche et fière et qui est aujourd'hui tombée en disgrâce dans le Capitole d'après-guerre. À l'approche des 10e Hunger Games, il est assigné à contre-cœur être le mentor de Lucy Gray Bird, une tribu originaire du district 12, le plus pauvre et le plus méprisé de Panem. Le charme de Lucy Gray ayant captivé le public, Snow y voit l'opportunité de changer son destin et va s'allier à elle pour faire pencher le sort en sa faveur. Luttant contre ses instincts, déchiré entre le bien et le mal, Snow se lance dans une course contre la montre pour survivre et découvre s'il deviendra finalement un oiseau chanteur ou un serpent. Alors, c'est un film qui suscitait beaucoup d'appréhension à moi, dans le sens où les quatre films originaux Hunger Games, même si effectivement je considère pas que ce soit non plus des chefs-d'œuvre, voilà, pour faire un peu rapidement la rétrospective de ces films-là, le premier je le trouve très sympa. Le deuxième, je le trouve vraiment très très bon. Je trouve qu'il y a vraiment des choses excellentes tant dans le propos que dans la mise en scène. Et c'est d'ailleurs à partir du deuxième que Francis Lawrence, donc celui qui a réalisé tous les films à partir du deuxième, y compris celui dont on va parler aujourd'hui, est arrivé. Et c'est vrai que les deux derniers, bon, je les ai trouvés un petit peu en dessous. Le fait aussi que ce soit en deux parties, ça a pu jouer. Et on perd un peu l'esprit Hunger Games, je trouve, même si le dernier essaye de les amener d'une manière différente. Donc pour le coup, voilà, même si c'est pas non plus une saga, à part le 2 que je considère comme des très très bons films, j'ai une valeur émotionnelle assez forte à cette saga, dans le sens où j'ai lu tous les livres en étant ado, j'ai vu tous les films, et c'est vrai que j'avais un peu peur quand ce préquel a été annoncé, d'autant plus que pour avoir lu le livre, j'en avais pas gardé un très bon souvenir. Là où effectivement les autres livres, je les avais beaucoup aimés et je les avais lus plusieurs fois, c'est vrai que celui-ci... J'avais pas forcément aimé, voilà, je sais pas, je trouvais qu'il y avait un truc qui marchait pas, et c'était plutôt ennuyant à lire, malheureusement. Donc effectivement, mon attachement à la saga plus la crainte vis-à-vis du support de base ont fait que j'y allais quand même un peu avec de l'appréhension, même si je l'ai vu dans la dernière projection presse qu'il y a eu. Donc j'avais le retour des autres projections presse et effectivement on m'avait dit que c'était très bien, etc. Mais quand même je me suis dit bon, voilà, c'est un petit peu inquiétant, et au final j'ai vraiment pas été déçu. Voilà, c'est à la fois un film réussi et un préquel réussi. Clairement, c'est un film donc qui, à l'image du livre, est découpé en trois parties. On va avoir la première partie qui va être le mentor, on va avoir la deuxième partie qui va être le prix, et on va avoir la troisième partie qui va être le pacificateur. Je vais décomposer, je pense, en parlant d'abord des deux premières parties et ensuite en parlant de la troisième, parce qu'elle est vraiment à part à mon sens. Alors, les deux premières parties, c'est tout ce qui touche autour des Hunger Games, hein. La première partie, c'est vraiment... avant le Hunger Games, le rôle de mentor de Snow, de comment aussi il va faire des suggestions pour, entre guillemets, améliorer les jeux. Voilà, et donc c'est des choses qui, en fait, sont installées pour la première fois dans ces 10e Hunger Games, mais qui, quand on regarde le Hunger Games de Katniss Everdeen, sont des choses absolument basiques qui sont en place, etc. Le fait est que cette partie-là, elle est intéressante dans le sens où on... Enfin, dans tous les cas, le film est intéressant parce que c'est... Vous l'aurez compris, je pense, si vous avez vu les premier Hunger Games, c'est la backstory, l'origin story de Snow, qui est donc le président de Panem au moment où Katniss Everdeen fait les jeux et au moment où il y a tous les événements de la saga originelle qui se passent. Et on voit vraiment en fait toutes les prémices de ce personnage. Je trouve qu'il est parfaitement bien incarné et écrit dans ce film-là. Voilà, que c'est vraiment en cohérence avec les films d'avant. Mais après, pour moi, j'ai lu ça que en fait c'était plus un Hunger Games 5 qu'un véritable préquel. Je suis vraiment pas d'accord. Je pense que c'est un film, si vous le regardez avant de regarder les quatre autres, c'est pas gênant. Enfin, il y a des choses que vous allez pas comprendre forcément parce qu'il y a des références, bien évidemment, à Katniss, à d'autres, ouais, d'autres choses de Hunger Games, notamment le système de cadeaux voilà, qui sont apportés dans l'arène aux tribus. Mais sinon, pour moi, c'est un film qui peut être regardé indépendamment des autres. Et j'ai mis beaucoup de temps à me forger un avis sur la vision du Capitole et même des districts. Hein, voilà. Même si les districts, on en reparlera plus tard parce que les deux premières parties se passent essentiellement au Capitole. Mais c'est vrai que la vision un peu primitive de ce Capitole, ouais, c'était un peu étrange dans le sens où ils sont beaucoup plus proches de la sortie de guerre, du coup, parce que bon, bah, 10e Hunger Games, ça veut dire que la guerre s'est finie 10 ans auparavant. Ils sont beaucoup plus proches de la sortie de la guerre que dans les 4 premiers films. Et en fait, c'est vrai que dans les 4 premiers films, on en a une vision un peu d'un univers assez technologique, vraiment un univers plutôt futuriste. Et là, en fait, ce qui est un peu bizarre, c'est qu'on a l'impression qu'on est dans un univers futuriste, mais que dans les technologies qu'ils utilisent, nous, en tant qu'être humain, ça correspondrait à bon bah l'apparition de la télé et du son, etc. Dans les technologies utilisées, ça a l'air d'être plutôt ça. Même les pacificateurs, hein, ils ont des tenues beaucoup moins futuristes, des armes beaucoup plus classiques, qui font moins effectivement société post-apo, et du coup ouais, ça m'a un peu décontenancé dans un premier temps, mais en soi j'ai bien aimé cette vision un peu primitive du Capitole. Peut-être qu'aussi on peut se dire que la guerre a empêché de développer les choses, etc. Et on voit que c'est vraiment un Capitole qui est en construction, et donc c'est aussi ça qui est intéressant, c'est que ce personnage de Snow, il vient justement lui se construire et essayer de décider de sa place dans cette société qui est en construction. Donc c'est pour ça qu'en termes d'histoire, c'est intéressant à voir. Maintenant, c'est vrai qu'en termes de décor, il y a des choses qui, moi, pourquoi je le qualifie primitif, même dans tout ce qui est jeu. Par exemple, la première fois qu'il y a des mentors pour les jeux, parce que du coup, les jeux, juste si vous mettez des gens des enfants dans des arènes, dans une arène pour juste se tuer, les gens n'avaient plus envie de regarder ça. Donc du coup, ils ont dit, on va faire appel à des mentors pour essayer de faire revenir l'audience. Donc, qui dit nouveau concept, dit forcément, on n'est pas du tout au maximum de ce concept-là. C'est-à-dire que les mentors, à part Snow, il n'y en a aucun qui va accueillir son ou sa tribu. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans le traitement de faveur que les tribus ont qu'on retrouve dans les films avec Katniss. On est vraiment, on les met dans une cage, littéralement dans un zoo, vraiment un peu comme ce qui avait pu être fait dans certaines expositions universelles, où on ramenait des gens, des humains, des êtres humains, voilà, de différents pays. Ça pouvait être d'Amérique du Sud, je crois, ça pouvait être d'Afrique, et on les mettait dans une cage et on les exposait littéralement dans les expositions universelles. Regardez ces gens qui viennent d'ailleurs. C'était vraiment la mentalité. Je crois que j'ai pas envie de dire de bêtises sur les réalités historiques de ce que je vous dis, mais il me semble que c'était vers le début des années 1900 que ça se passait. Et en fait, c'est une référence qui, je trouve, est très explicite et qui en dit long sur le mépris quand même des gens du Capitole pour les gens des districts. Et c'est, je trouve, quelque chose qui est pas mal développé, cette séparation Capitole District, qui est fait d'une manière assez différente des premiers films, donc ce qui est appréciable. Et je trouve qu'il y a aussi une grande place sur la question morale des jeux, là où en fait dans les films, je vais les appeler la saga Katniss, hein, ça va être plus simple. Dans la saga Katniss, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très acquis, même au Capitole en fait. Hein, c'est un divertissement et c'est comme ça et tout le monde en raffole et tout. Alors que dans les districts, évidemment, ça le dénonce. Enfin, ça dépend des districts. C'est vrai que dans les districts de carrière où il y a le tribut de carrière, c'est vrai que voilà, il n'y a pas forcément de développement là-dessus, ou de rejet en tout cas. Mais là, c'est vrai que même au Capitole, on a vraiment du coup c'est des jeux qui sont en perte de valeur, en perte de plein de gens qui ne veulent plus regarder, tout simplement. On a quand même, je trouve, cette question qui se pose de est-ce qu'il faut continuer, voilà. Est-ce que le fait qu'il y a eu cette guerre-là, ça justifie de massacrer des enfants? Et c'est vrai que même si c'est un peu terrifiant justement d'avoir une société où, je parle des premiers films, hein, où on arrive et ça pose problème à personne, ce qui pour le coup est assez, c'est juste, il faut se poser deux secondes et voilà quoi, réaliser ce que ça implique. Et du coup, ouais, voilà, y a ces questionnements moraux là qui sont intéressants, je trouve, notamment par Sejanus, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle ce personnage, qui du coup, lui, vient du district 2, hein, donc il vient des districts, il connaît ça, et ça va être un peu ce porte-parole là de voilà, d'ériger ce truc de ouais, mais est-ce que les jeux fondamentalement sont bons, est-ce qu'il faut continuer? Et il y a le personnage aussi sans trop spoil, hein, je trouve, des créateurs de ces jeux qui incarnent bien ça, qui est joué par Peter Dinklage, qui est le Dean, je sais plus comment il s'appelle, Highbottom, voilà, le Dean Highbottom, je trouve en tout cas, voilà, qui incarne bien ça. Maintenant, effectivement, j'ai beaucoup développé sur l'univers, ce qui est en soi important, voilà, parce que bon, c'est quand même un tout autre, enfin, pas cadre spatio-temporel, parce que du coup les lieux sont les mêmes, mais en tout cas en termes de temps, et donc du coup c'est vrai que ça transforme vachement les lieux qu'on avait l'habitude de connaître, et on a l'impression d'arriver dans un nouveau monde en fait, concrètement, voilà, donc c'est quand même important, je trouve, de parler de cet univers-là, mais c'est un film, c'est-à-dire qu'il y a aussi, bon, bah, une réalisation, voilà, autre chose, voilà. Et justement, pour avancer un petit peu plus dans l'histoire, et passer bah, peut-être plus à la deuxième partie qui donc considère, enfin qui... Comment dire, qui concerne, voilà, les jeux plus directement. Je trouve que Francis Lawrence, en termes de réalisation, n'a pas été aussi inspiré justement depuis L'Embrasement, qui moi était jusque-là. J'avoue que y a match avec celui-là, mais qui était jusque-là mon Hunger Games préféré. Et je trouve qu'il y a des excellentes idées de mise en scène, tout court, hein, pas que, surtout dans la troisième partie, mais on y reviendra parce que j'aimerais bien, voilà, consacrer une partie entière de l'épisode à cette partie-là. Mais ouais, sinon il y a beaucoup d'idées, même dans l'arène, je pense à l'ouverture des jeux, tout simplement. Où il y a le grand angle qui est beaucoup utilisé, et il y a vraiment des choses excellentes qui sont faites là-dedans, je trouve. Et c'est vrai que ça reste un blockbuster, et un aspect, je pense, fondamental des blockbusters, hein, même si effectivement il peut y avoir un côté auteur, il peut y avoir un propos, comme c'est le cas là-dedans, hein, pour le coup. C'est vrai qu'un blockbuster, je trouve que par essence, il y a un lien très fort à tout ce qui est divertissement. C'est-à-dire que si vous vous ennuyez devant un blockbuster, c'est quand même assez problématique. Voilà. Et pour le coup, c'est l'utilisation des grands angles, ça rend vraiment le tout très divertissant, je trouve. C'est bête, hein. Il a pris vraiment un procédé qui est pas non plus un procédé obscur du cinéma, hein, le grand angle, mais il en a fait quelque chose d'absolument formidable. Et tout simplement, ouais, c'était une idée qui, pour le coup, peut sembler basique, mais qui fait vraiment la différence. Et donc, je trouve qu'il y a un truc aussi très intéressant sur le commentaire sur le totalitarisme et sur comment la haine naît. Bon, c'est vrai que c'est pas que sur les jeux, mais il y a quand même ce caractère, en tout cas sur les jeux, bah, punitif déjà dans leur essence, et puis même avec le tribut du 2, il me semble, voilà, qui est montré de cette manière-là. C'est vrai que j'ai parlé des carrières tout à l'heure, des carrières, donc pour ceux qui connaissent pas Hunger Games, c'est les tribus qui, en gros, s'entraînent toute leur vie pour participer au Hunger Games et les gagner, et après se portent volontaires pour y participer. Alors que c'est vrai que dans les autres districts, c'est un peu, bon, bah, ça tombe sur vous, en fait, vous savez que vous n'avez pas trop de chances de gagner et que globalement, vous allez vous faire tuer, quoi. C'est un peu ça. Là, pour le coup, j'ai l'impression qu'il n'y a pas encore ce principe de carrière, même s'il y a toujours la proximité du district 2 avec le Capitole. Mais sans trop spoil, ouais, ce qui se passe avec ce personnage, enfin voilà, il y a bien la volonté de montrer un exemple, de punir, de répression aussi. Clairement, voilà, je trouve que le fait que les jeux se déroulent dans un climat qui, pour le coup, est encore instable, je vais pas dire que dans la saga Katniss c'est un climat pacifique où tout le monde est heureux, mais c'est un climat de réelle domination où il n'y a pas vraiment de place pour la résistance. Alors que là, effectivement, on sent qu'on est un peu bon, quand même 10 ans après la fin de la guerre, c'est long, mais on est encore entre guillemets un peu dans le sortir de la guerre, et donc c'est intéressant quand même de voir les jeux se tenir dans un climat où il n'y a pas du tout de stabilité, où ils sont contestés, et donc du coup ça ramène, comme je disais, l'aspect moral que j'évoquais, voilà, et tout simplement, ouais, de voir des jeux un peu plus primitifs où il n'y a pas non plus des armes de pointe énormes, où il y a une arène unique pour tous les jeux, là où dans la saga Katniss, et je pense à partir d'une certaine édition, il y a une arène qui est designée exprès tous les ans, et donc du coup on n'a jamais les mêmes jeux, là c'est vrai que c'est vraiment la même arène, voilà, bon, là il y a un petit trucs en plus qui se passent qui fait qu'on n'est pas vraiment sur la même arène que les autres années. Enfin, c'est la même arène, mais il y a bref un élément sans spoil, voilà, qui fait que la disposition est un peu différente. Mais on commence déjà à porter des éléments extérieurs, je pense bien évidemment au serpent. Et donc du coup, ça voilà, il y a quand même un intérêt, je trouve là-dedans, qui est pas mal. Voilà. Puis en plus, nous, en tant que spectateurs de cinéma, du film, on est quand même aussi dans une arène que nous, on ne connaît pas, parce que nous, on a connu les arènes des autres Hunger Games, mais celle-là, on ne la connaît pas. C'est pas comme si voilà, on avait eu 10 films avec cette arène-là. Donc, on la découvre aussi. Après, c'est vrai que comparée à celle des autres films, elle est relativement simple. Et moi, si j'aime autant aussi Hunger Games 2, c'est pour son concept de l'arène qui est magnifiquement mis en image et qui est très, très intelligent. Et voilà, c'est aussi pour ça. Donc, c'est vrai que c'est un peu dommage, je trouve, d'avoir une arène aussi simple, mais ça participe un peu à voilà, cette image primitive et aussi originelle des Hunger Games. Et donc oui, effectivement, je pourrais vous parler de ce que les jeux, le commentaire que les jeux font ressortir sur la nature humaine profonde, voilà, sur l'instinct de survie, ce qui peut développer chez les gens, etc. Mais je ne vais pas le faire, tout simplement parce que je trouve que c'est bien plus intéressant à aborder concernant la troisième partie. Pour recontextualiser un peu, pour ceux qui ne connaîtraient pas la saga Hunger Games, en vrai le schéma, en tout cas des films où il y a des jeux, il est assez simple. Donc on a, en tout cas, bon, j'enlève la première partie du 2 parce que c'est sur l'après-victoire de Katniss et Peeta. Mais sinon, on a donc la moisson, l'arrivée au Capitole avec tout ce qui est préparation, entraînement, défilé, interview télévisée, machin. Et ensuite, on a les jeux. Là, donc, une fois que les jeux se terminent, moi, donc, connaissant un peu la mécanique de ces films, j'avoue qu'il y a quelque chose en moi qui se dit, bon, ok, là, ça va être la conclusion du film. Mais ça me paraissait bizarre, parce que pour moi, ça faisait pas 2h30 que ça durait, quoi. Bref, et du coup, je sais pas, j'ai eu un petit... Quand j'ai vu troisième partie, le pacificateur, j'ai fait, ah, quoi ? Enfin, ça m'a paru un peu bizarre, elle était très étonnante, j'ai trouvé cette partie-là. Dans le sens où elle est assez inattendue, et c'est vrai que j'avais plus du tout le livre en tête, j'étais assez décontenancé, qui est cette troisième partie-là. Et en fait, je trouve que cette troisième partie, et c'est peut-être un défaut, ça pourrait être un film à elle-même, en fait. C'est pour ça que j'ai envie de vous en parler particulièrement, c'est que ça pourrait être un film totalement indépendant. Et ça aurait peut-être gagné à l'aide, d'ailleurs, parce que je trouve que c'est ce qui est le truc le plus intéressant à être développé, en fait. Pour vous résumer un peu, après les jeux, Snow, globalement, ordonné, enfin on le condamne à être un pacificateur. Il veut aller dans le district 8, sauf qu'il truque un peu les choses et qu'il sous-doit la personne qu'il a assignée au 8 et pour aller dans le 12. Bien évidemment, pour retrouver Lucy Gray. Parce que on se doute que il y a quand même une certaine romance qui s'installe entre les deux personnages qui est pas énervante. Là où c'est vrai que ce genre de romance peut être énervante dans les blockbusters, là ça l'est pas. Et donc il se retrouve en tant que pacificateur dans le 12, et là il y a vraiment quelque chose qui est extrêmement intéressant, encore une fois, dans le propos sur le totalitarisme. C'est donc lui, sa place dans le système, c'est-à-dire qu'il est vraiment dans la police de ça, c'est-à-dire qu'il est chargé littéralement du maintien de l'ordre, et que du coup il y a beaucoup de répression, et en fait lui il se complet là-dedans, il est d'accord avec ça, et il y a beaucoup de références pour moi aussi à la collaboration, etc. Et il est très... Il a en fait aucune valeur, hein, pour lui. Son but, c'est vraiment de d'être au Capitole et de servir le Capitole par-dessus tout. Il va jusqu'à, ça spoil un peu, mais trahir ses amis, pour ça. Et d'ailleurs, en parlant de son ami, donc c'est Janus dont je parlais, c'est vrai que c'est très intéressant, parce qu'au début, on dit que, en fait, personne ne peut le blairer sauf Snow. Donc c'est un peu bizarre, parce que, on se dit, ok, il a quand même un bon fond. Même, en fait, c'est ça qui est intéressant, je trouve, avec cette troisième partie, c'est que c'est vraiment le véritable Snow qui va se révéler. Parce que sur les autres parties, il est ami avec ses Janus, donc on se dit c'est un personnage qui, dans le fond, est pas mauvais. Il aide énormément Lucy Gray, on a l'impression qu'il y a un doute quand même, hein, parce que il y a un enjeu pour savoir qui va avoir un prix entre les mentors, mais on sent qu'il veut vraiment la garder en vie au-delà du prix. Voilà, donc on se dit que bon, bah, c'est intéressant de voir qu'un personnage qui, dans la saga Katniss, est fondamentalement mauvais, voilà, et qui, bon, bah, quand même, utilise le poison pour tuer ses adversaires et bon, bah, perpétue cet héritage des jeux et menace les gens, etc. Pour le coup, là, on voit un aspect un peu plus positif de sa personnalité et c'est intéressant, je trouve, comme choix. Bon, après, ça, c'est aussi, je pense, hein, j'ai plus beaucoup de souvenirs, mais ça vient, je pense, aussi du livre. Et c'est pour ça que je trouve la troisième partie brillante, parce que dans la troisième partie, donc, on est quand même sur un système qui va se retourner contre lui, c'est-à-dire qu'on l'envoie en tant que pacificateur, on l'exile du Capitole, et pour autant il est quand même fidèle et il se dit bah, c'est pas grave, je vais y retourner et je vais m'imposer. Et en fait, je trouve ce qui est absolument bien amené dans le film, c'est de montrer que c'est un personnage qui, dans sa nature, est pire justement que ce système qui se retourne contre lui. C'est-à-dire que on n'est pas dans le manichéisme pour moi, parce que comme je le dis, on montre que bah, il peut avoir des aspects pas du tout négatifs, bien au contraire. Alors, on le montre à beaucoup de moments, on le montre sous une forme très positive, ce personnage de Snow, mais il y a cette sorte de nature en lui, une sorte de, je ne sais pas si je dirais déterminisme, mais de prédisposition, voilà, qui fait que on sent qu'il y a une soif de pouvoir, on sent qu'il y a vraiment des volontés qui sont plus fortes que lui, qu'il est prêt à tout pour ça, et que il y a une nature qui, pour le coup, ouais, est mauvaise dans le fond. Voilà, après, c'est aussi pour ça que j'ai aimé le film, c'est que, comme j'ai dit, on n'enferme pas le personnage là-dedans, on montre qu'il peut en sortir, que c'est extrêmement dur, et que bon, bah, je crois que c'est bien dit dans le synopsis que je vous ai lu, hein, d'ailleurs, si je vais rapidement le revérifier. Mais c'est ça, luttant contre ses instincts déchirés entre le bien et le mal. Voilà, pour moi, c'est vraiment ça que j'entends quand je vous parle de ça. Et je trouve que c'est en ça que le film est extrêmement intéressant de son point de vue. Et dans cette dernière partie, donc, il va y avoir le développement aussi du personnage qui s'accompagne avec le développement de sa relation et de sa romance avec Lucie Gray, et je trouve que c'est une partie qui, d'un point de vue cinématographique, propose des choses qui sont absolument exceptionnelles pour un blockbuster de ce genre-là, qui sont vraiment inattendues. Je pense à ces scènes, notamment au lac, où il y a une photo et un traitement sonore, un espèce de calme qu'il n'y a pas du tout dans normalement dans ce type de blockbuster, ou dans même le reste du film, hein. Il y a beaucoup un design sonore qui est assez impressionnant aussi, et en fait on a l'impression de voir vraiment un film indépendant sur une romance un peu compliquée d'un été, un espèce d'amour impossible, etc. Ce qui fondamentalement est le cas, hein, pour le coup, dans le film, mais qui en fait n'a normalement pas sa place dans des blockbusters comme ça. Et je trouve que cet aspect qui, mine de rien, va amener le film vers quelque chose de d'un peu plus indé que ce qu'il est normalement, hein, que le blockbuster qu'il est normalement, j'ai trouvé que c'était un choix qui était absolument formidable, et qui en termes d'image, j'ai été vraiment très étonné par la beauté des images, et puis même en termes d'ambiance et de rapport entre les personnages, je trouve qu'il y a énormément qui se dit dans les corps, je trouve qu'il y a énormément qui se dit dans les regards, et ouais, en fait, c'était juste étonnant de voir ça, mais étonnant dans le bon sens du terme. Et je pense que c'est quand le film a commencé à développer ça, puis même tout ce qui est univers du District 12, hein, qui avait l'air, c'est vrai, beaucoup mieux en point 10 ans après la guerre que 74 ans après. C'est vrai que le District 12, ça n'a pas l'air non plus hyper désagréable d'y vivre. Maintenant, c'est vrai qu'on n'a pas du tout le point de vue des mineurs et des habitants, comme c'est le cas dans la saga Katniss. On a le point de vue des pacificateurs, donc c'est sûr que forcément, il est mieux. Mais du coup, ouais, ça a développé ça, moi, ça m'a instantanément passionné. Et je trouve que c'est le cadre est encore plus propice au développement du personnage de Snow. Donc je dis vraiment avec admiration le respect que j'ai pour cette partie-là, la partie du pacificateur, qui est de loin, je trouve, la meilleure du film. Et où, en fait, ouais, je trouve qu'il y a un aspect hyper intéressant d'un point de vue moral sur Snow, dans le sens où on n'est pas non plus dans le jugement excessif, où on va juger ses actions, etc., même si, bon, bah, il commet des choses, bref. Mais que petit à petit, c'est limite, on se met à avoir peur de ce personnage-là, et voilà, je trouve qu'il y a quelque chose qui change en fait à partir de ce moment-là, qui est extrêmement, extrêmement intéressant. Et on comprend un peu aussi bah, comment il a pu en arriver là où il en est arrivé dans la saga Katniss. D'un point de vue comportemental et moral, je veux dire, pas d'un point de vue politique. Et ouais, je l'ai trouvé tout simplement brillante. Et très honnêtement, si on m'annonce qu'il y a un nouveau film Hunger Games qui est fait, et que bah, c'est vraiment centré sur le mental et la psychologie de Snow plus que sur les Hunger Games en tant que tel, je signe tout de suite. Je signe tout de suite parce que je trouve que, en tout cas en termes de... pour moi, bref, le meilleur moment de la saga, le moment le plus cinématographique et moi qui m'a le plus impressionné, c'est quand justement il rentre dans l'arène dans le 2 et qu'il y a ce changement de ratio, je suppose, pour les salles IMAX, qui moi, voilà, m'a le plus impressionné. Mais sinon, hormis, hormis ce procédé cinématographique de changement de ratio, je trouve que c'est vraiment la meilleure chose qui a été développée dans cette saga. Et ouais, c'est juste brillant, je trouve. Je l'ai dit beaucoup de fois ce mot, mais c'est justifié, voilà. Et j'ai pas souvenir de blockbusters qui nous ont proposé quelque chose de similaire, voilà, de vraiment prendre un contre-pied sur leur dernière partie, qui est quand même assez longue, hein, et nous proposer quelque chose qui touche même plus au cinéma indépendant qu'au blockbuster. Et pour le coup, voilà, je pense qu'on ne peut que s'incliner devant ce choix et cette mise en image et cette adaptation de Francis Lawrence, qui ouais, développe à merveille la complexité de Snow. Et il y a ces instants à la fin, dans la forêt, entre Snow et Lucy Gray, où j'étais vraiment scotché, parce qu'il y a quelque chose d'hyper angoissant. Il y a une mise en scène, moi, qui par moments me même rappelait des situations d'attentats dans type Elephant, etc. Alors, je dis pas que c'est filmé comme Elephant, hein, mais genre juste les types d'attentats, genre comme dans les lycées aux États-Unis. Voilà, dans la manière de montrer Snow et dans la mise en scène, je trouve que ça sonnait comme ça. Et pour le coup, ouais, il y avait des choses... auquel encore une fois je m'attendais pas et qui m'ont vraiment plu. Alors je vais quand même donner mes limites avec le film parce que j'en ai quelques-unes. C'est vrai que il y a des soucis de rythme, vraiment, il y a des fois il y a des longueurs, surtout dans la deuxième partie, je trouve l'alternance entre les jeux et les personnages qui ne sont pas dans les jeux est peut-être pas très bien géré, ce qui crée un petit peu des longueurs. Il y a des personnages secondaires qui, bon, c'est vrai, sont pas forcément utiles, par exemple Tigris, je pense que sa présence dans le film n'est pas essentielle, surtout que c'est pas un personnage qui est très important dans la saga. On la voit dans la Revolt Partie 2, mais je veux dire, c'est pas non plus un personnage, voilà, très essentiel. C'est vrai que Jason Schwartzman, pardon, en Flickerman, premier du nom, ne fait pas vraiment plus que ce qui est dévoilé dans la saga Katniss. Viola Davis, en termes de haut juge, je la trouve beaucoup plus proche de ce que pouvait être dans le premier film Seneca Crane que n'importe quel autre haut juge, tout simplement. Et en ça, bon, elle a une vibe un peu folie, un petit peu, voilà. Mais bon, ça va, elle est quand même assez unique et elle apporte quelque chose, je trouve, à la saga. Et donc ouais, je pense que c'est le principal souci que j'ai avec le film, hein, voilà, ces personnages secondaires et le rythme. Sinon, c'est une grande réussite, à ma plus grande joie, et donc je vous conseille fortement d'aller le voir. Et c'est vrai que j'ai fait tout l'épisode, pour l'instant, sans parler des interprètes, ce qui est un exploit monumental, parce que voilà, ils sont très très bons. Alors c'est assez rigolo, je trouve, parce que ils ont vraiment été piochés très fort dans le West Side Story de Spielberg, hein. Il y a quand même deux des personnages principaux, donc Rachel Zegler, et qui joue donc Lucy Gray, et Josh Andres Rivera qui joue Sejanus, qui était le Chino de Steven Spielberg. Donc c'est vrai que bon, il y a un petit brassage dans ce film là, qui en soi, voilà, les deux sont très bons dans ce film, hein, et c'est vrai que j'étais assez, assez critique vis-à-vis de Rachel Zegler, dans le sens où elle a que 22 ans, et c'est vrai que En termes de choix de carrière, après West Side Story, sur le papier, elle fait pas forcément les meilleurs. Donc on a eu West Side Story, ensuite on a eu Shazam 2, que j'ai pas vu, mais bon, en termes de choix de carrière, on voit que c'est pas tip top. Il y avait The Hunger Games qui me faisait peur, et voilà. Et c'est vrai qu'il y a le remake live action de Blanche-Neige qui arrive. Donc bon, ouais, c'est vrai que c'est vraiment que des grosses productions, là où je trouve qu'elle a un vrai talent et où on n'a pas forcément envie de l'avoir dans les live-action Disney. Donc sûrement qu'elle fait des choix de carrière un peu douteux, mais en tout cas, ce Hunger Games n'en fait pas partie, fort heureusement. Et ensuite, on a donc le jeune Snow, qui est Tom Bliss, qui, je ne sais pas si je le dis bien, mais pour le coup, que je ne connaissais pas, et qui a été une véritable découverte, dans le sens où il est excellent, et il incarne parfaitement les nuances de Snow. Voilà, donc moi, c'est ce duo d'acteurs principaux qui m'a marqué, bien évidemment, qui je vois pas forcément d'autres acteurs qui sortent du lot, si ce n'est Viola Davis, ou Jason Schwartzman. J'ai un peu, c'est pas que j'ai du mal, mais c'est que en fait il apporte pas grand chose, je trouve, de supplémentaire par rapport à ce que pouvait amener Stanley Tucci dans le rôle de César Flickerman. Je trouve que voilà, il y a pas grand chose qui est amené en plus. Je sais pas si c'est le rôle qui est écrit comme ça, si c'est lui qui a pas mis assez d'idées ou du sien, mais en tout cas ouais, je trouve que malheureusement il y a rien qui le démarque vraiment, là où Viola Davis en tant que au juge, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est très très personnel. Mais donc voilà, c'est aussi un film qui est réussi du point de vue de l'interprétation. Je l'ai pas abordé jusque là, donc je tenais à le faire, mais je vais pas voilà développer plus que ça. Mais c'est vrai que pour le coup, malgré les doutes surtout sur Rachel Zegler, hein, que je pouvais avoir, c'est une performance qui est tout à fait réussie, et ça passe aussi dans ces scènes de chansons qui sont absolument géniales. Toutes les chansons du film sont géniales quand elles reprennent The Hanging Tree, c'est déjà pour les fans d'Hunger Games, ça met les frissons, ça met les poils, et puis elle le fait à merveille. Ses costumes sont absolument géniaux. En termes d'esthétique et d'interprétation, c'est une grande réussite qu'est ce film, et voilà, c'est une grande réussite plus dans sa globalité, clairement. Donc voilà, c'est la fin de cet épisode sur le dernier Hunger Games. J'espère qu'il vous aura plu. J'ai une dernière annonce à faire dans cet épisode, c'est que dans une semaine tout pile, le samedi 25 à 21h, je serai en live sur la chaîne Twitch de Joe du Fil d'Ariane. Donc pour le coup, je vous mets le lien de sa chaîne Twitch en description, n'hésitez pas à venir. On va parler de la saga dans sa globalité, hein, voilà, si vous voulez que j'approfondisse un peu sur les autres films que celui-ci, je pense que ce sera fait. Je remercie bien évidemment l'agence Cartel pour m'avoir permis de voir ce film en projection presse. La semaine prochaine, en principe, il y a un autre épisode qui sort sur un film qui pour le coup n'est pas prévu pour le 22 novembre mais pour le 29, parce que j'ai deux films à évoquer, voilà, qui sortent le 29. Donc je pense que j'en sortirai un la semaine prochaine, voilà. Donc je vous dis tout simplement à la semaine prochaine pour cet épisode, et je vous laisse tout simplement avec la formidable Olivia Rodrigo, en espérant qu'elle soit oscarisée pour cette chanson. Catch me now, I'm higher than the hopes that you brought down. You can't